Je vous propose qu'on commence en priant. Seigneur, je te remercie pour ce temps de culte que nous pouvons vivre ensemble ce matin. Merci pour ce moment passé dans la louange, durant laquelle nous avons pu exprimer tout notre amour et notre reconnaissance, durant laquelle nous avons peut-être aussi pu nous décharger de certaines craintes. Et Seigneur, je veux te remettre maintenant ce moment de prédication afin que tu parles à chacun d'entre nous, car tu es un Dieu qui veut s'adresser à ses enfants ce matin. Et oui, et ta parole ne revient jamais à toi sans effet. Dans ton nom, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, bonjour à tous. C'est un exercice que j'ai fait il y a un petit moment maintenant, la prédication. Donc, un petit peu stressé la première minute, mais vous allez voir, je vais me détendre. J'hésitais ce matin parce que il y a deux types de prédications, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. En tout cas, j'ai le sentiment qu'il y a deux types de prédications. Celle où le prédicateur choisit un passage dans la Bible et se creuse la tête en se demandant ce que le Seigneur cherche à nous dire au travers de ce passage. C'est d'ailleurs souvent les prédications que je préfère. Mais de temps en temps, le prédicateur, il a une pensée ou en tout cas une thématique sur le cœur et il va choisir des petits ou versets ou des courts passages qui vont venir illustrer sa pensée. Et ce matin, je vais partir sur cette deuxième option. Parce que vous savez que c'est le jour de la fête des pères. J'en profite pour souhaiter la bonne fête à tous les papas, à mon papa également, s'il écoute après coup le message. Mais si c'est aujourd'hui la fête des pères et qu'on doit célébrer la fête des papas, il me semble qu'il y a des enfants de Dieu ici dans la salle et il faudrait fêter la fête de notre Père à tous. Notre Père à tous. Donc voilà la thématique de ce matin. Et j'aimerais vous proposer 6 points. Pour ceux qui prennent des notes, de comment est notre Père céleste. Le premier point, c'est. Alors, je me coupe un instant, je n'ai pas pris le chronomètre. Si je suis trop long, tu me ferais un signe. Mais ça va. Le premier point, Dieu nous connaissait avant même notre naissance, chacun d'entre nous. Et ça, on peut le lire dans Jérémie 1, 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi. Je te connaissais avant même ta mise au monde. Pour vous parler un petit peu de moi, moi enfant, jeune adolescent, mon rêve était de devenir un jour un père de famille. C'était mon rêve déjà très jeune. C'est curieux, hein? Mes amis, à l'époque, on en discutait. Certains d'entre eux, un peu plus lucides, voulaient devenir avocats ou un autre ingénieur dans tel domaine. D'autres, un peu moins lucides, un peu plus rêveurs, mais pourquoi pas, voulaient devenir footballeurs. Et moi, dans la bande, je voulais devenir. Moi, j'aimerais bien. J'ai hâte d'être père de famille, de rencontrer quelqu'un et d'avoir des enfants. Et à l'époque, ça paraissait le projet le moins ambitieux par rapport à tous les autres. Et finalement, les années sont passées et aujourd'hui, je pense dire que c'est un des projets assez ambitieux finalement. Rencontrer quelqu'un et fonder une famille, avoir une famille solide, c'était donné de Dieu. Quand Sarah et moi, nous sommes donc mariés, on a très vite eu cette pensée qu'on allait avoir 2 enfants. Qu'on aurait sans doute un garçon en premier et une petite fille ensuite. C'est ce qu'on s'était imaginé. Et est-ce que c'était une pensée du Seigneur? Peut-être, parce que c'est ce qui est arrivé. En tout cas, un peu après notre mariage et un peu avant qu'on décide d'avoir notre premier enfant, j'ai fait un rêve une nuit. Ce genre de rêve dont on se souvient et dont on a le sentiment que Dieu cherche à nous parler. Et j'ai rêvé que Sarah et moi avions. Enfin, que Sarah avait accouché, que nous avions accueilli dans notre famille un petit garçon. Et dans notre rêve, il s'appelait Raphaël. Et on l'aimait de tout notre cœur. Et notre famille était très heureuse de l'accueillir. Et je me suis réveillé en me disant que ce rêve-là, Dieu souhaitait me parler. Et en méditant dans la matinée, j'ai compris que Dieu cherchait à me dire, Mathieu, Sarah, je connais cet enfant. Et il est temps que je vous le confie. Je le connais dans ma pensée. Je m'apprête à vous le confier. Ça y est, c'est le moment. Doutez pas de votre parentalité, je vais vous accompagner là-dedans. Mais ce petit garçon, Raphaël, je vous l'envoie. Et ça a été vraiment une pensée très forte qui nous a beaucoup encouragés. Sarah est tombée enceinte peu de temps après. Quand on est allé faire l'échographie et qu'on nous a annoncé son sexe, on n'avait pas de doute, c'était bel et bien un petit garçon. Et quand il est né, on a décidé de l'appeler Raphaël, parce que c'était dit comme ça, c'était voulu de Dieu. Ce petit garçon était connu de Dieu. Il y a une notion d'éternité qui est vertigineuse, mais l'éternité, souvent, on a le sentiment qu'elle a un début et pas de fin. Mais l'éternité n'a pas de début non plus. Et donc, c'est mystérieux, mais finalement, nous étions vivants bel et bien auprès, en tout cas dans la pensée de Dieu, avant notre mise au monde. Et c'est l'expérience qu'on a pu faire, nous, avec Raphaël. Et peu après, au bout d'un an et demi, Sarah est retombée enceinte. Pareil, on n'avait pas de doute, ça allait être une petite fille. Alors, je n'ai pas rêvé du prénom cette fois-ci. On l'a choisi. Mais Michaela est née juste après, on n'avait pas de doute, ça allait être une petite fille. Le Seigneur nous connaît avant même notre naissance. Deuxième point, le Seigneur non seulement nous connaissait, mais le Seigneur nous a fait. Et là, on peut lire dans le psaume 139, au verset 13, C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Vous pouvez dire à votre voisin de gauche et de droite, vous êtes une créature si merveilleuse. Vous êtes une créature si merveilleuse. C'est Dieu qui nous a fait, aucun doute. Dans le même psaume, au verset 6, on peut lire, Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre était tout inscrit, les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Autrement dit, l'interprétation de ce verset, c'est que nous n'étions pas une erreur. Aucun d'entre nous, combien même les circonstances de notre naissance peuvent paraître moins jolies que d'autres. On n'est pas tous nés au sein d'un beau mariage avec un couple fidèle, d'autres sont nés dans d'autres circonstances, mais combien même vous n'êtes pas, je ne suis pas, personne d'entre nous sommes une erreur, car lorsque nous étions cette masse informe, Dieu nous voyait déjà, tout était inscrit, tous ces jours-là. Amen. Vous me suivez? On est à quel point maintenant? Troisième. Ça va un peu vite. Je vais essayer de ralentir. Troisième point, Dieu nous aime. Romains 8, au verset 38 et 39, Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Manifesté, pardon, en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça, c'est l'amour du Seigneur pour nous. Quand Sarah était enceinte de Raphaël, tout au long de sa grossesse, je sentais qu'elle tissait déjà une relation avec l'enfant. C'est normal, elle le portait, mais il se passait quelque chose entre les deux, et c'était même un peu frustrant pour moi, parce que nous, les papas, hein, pour ceux qui l'ont été, on a l'impression de. Alors, nous, on porte les sacs, hein, on fait tout ce qu'on peut, mais on n'arrive pas à créer ce lien encore, en tout cas pour le moment, même si on essaye de parler au travers du ventre et de le chanter des petites chansons, c'est pas pareil. Et quand les contractions ont commencé et que nous sommes allés donc à la maternité, Sarah a accouché, elle a été extraordinaire d'ailleurs, en un quart d'heure, je crois. Et Raphaël est né. Quand il est né, Sarah a fait une petite hémorragie au moment de l'accouchement, et donc il y a eu tout un remue-ménage, et on m'a donné Raphaël dans les mains très vite, et on m'a demandé de sortir parce qu'il fallait un chirurgien vienne s'occuper de Sarah. Rien de catastrophique, mais quand même une hémorragie qui nécessitait une intervention. Et donc je me souviens avoir dit à Sarah, notre fils s'appelle Raphaël, ce qui signifie Dieu a guéri. On ne s'inquiète pas, Et je suis sorti dans une petite pièce à côté. On m'a totalement abandonné. J'avais aucune infirmière, personne. J'avais seulement Raphaël dans les bras, dans une pièce toute sombre. Il pleurait pas. Et là, je l'ai regardé. Il me regardait, on se regardait, quoi. Et j'ai été douché d'un amour que je n'imaginais pas pouvoir recevoir pour quelqu'un. Quand j'ai rencontré mon fils, je me suis dit, mais cet amour, je ne pensais pas pouvoir l'avoir pour quelqu'un. Cet amour inconditionnel. Et alors, je me suis présenté. J'ai dit, ah, salut Raphaël, moi, c'est ton papa. Je te promets que je vais prendre soin de toi. Ça c'est sûr, je ne t'abandonnerai pas. Ah, quel amour je peux avoir pour toi. Et cet amour inconditionnel, je pense, quand on devient père, c'est une grâce parce qu'on peut comprendre aussi comment notre Dieu nous aime. Et maintenant qu'ils ont un peu grandi, j'aime bien leur dire. Vous savez, papa, il n'y a rien qu'il n'affrontera pas pour vous et il n'y a pas un endroit où il ne viendra pas vous chercher. Je me convainc de ça, hein, parce qu'il y a peut-être des choses qui me font peur. Mais je me convainc moi-même. Je dis, Raphaël, Michaela, il n'y a rien que je n'affronterai pas pour vous. Il n'y a pas un endroit où je n'irai pas vous chercher. J'en fais un peu moins, mais je faisais beaucoup d'escalade, fut une époque. Et je me souviens quand on était un peu en compétition. Et que enfin, je n'arrivais pas à grimper une certaine voie. Il fallait, c'est bizarre, hein, il fallait que je me dise, mes enfants sont là-haut, il faut que j'aille les chercher. Si je ne vais pas les chercher, il se passe quelque chose. Et donc, quand je grimpais, ça marchait quasi à tous les coups. Hein. En tout cas, je donnais le meilleur de moi-même. Et j'arrivais souvent en haut de la voie en me disant, c'est bon, ils sont sains et saufs. Mais vous voyez, ce genre de motivation qui nous pousse à aller au-delà de nous-mêmes. Ça, c'est l'amour de. Alors, moi qui suis un père humain, hein, l'amour de notre Dieu, on peut l'imaginer encore bien plus grand. Mon père aussi, c'est la fête des pères, je vais parler de mon père aussi, mon père terrestre, je serais reconnaissant de l'avoir. Lui aussi, dans ma jeunesse, quand je faisais des bêtises, parce que j'en ai faites, figurez-vous, et des belles, quand il devait me reprendre, il commençait toujours par Mathieu, je t'aime, mais. Voilà, et alors la suite, je vous laisse imaginer. Mais le fondement devait être dit systématiquement, malgré tout, pour me rappeler que peu importe ce que j'ai fait, l'amour qu'il avait pour moi, ça, il ne changeait pas. Est-ce qu'il y avait des conséquences? Oui. Privé de sortie. Alors, il ne m'a jamais battu, hein, mais privé de sortie ou autre. Mais ce fondement de à chaque fois systématiquement, Mathieu, je t'aime, mais voilà les conséquences, etc. Et ça m'a aidé aussi à comprendre l'amour de notre Dieu, qui nous aime systématiquement, inconditionnellement. Même si parfois on fait des choses qui ont des conséquences, ça ne change rien pour l'amour qu'il a pour nous. On a cet exemple aussi du fils prodigue dans Luc 15, c'est au verset 11 et 32. Je vais pas vous les lire, mais on connaît toute cette histoire. Ce fils prodigue qui demande à son père son héritage et qui souhaite quitter donc sa famille et qui va mener sa vie en prenant de mauvaises décisions et qui va se retrouver à avoir tout perdu et à être dans une situation moins agréable que celle des ouvriers de son propre père, c'est-à-dire qu'il se retrouve à prendre soin des cochons et à essayer de se nourrir de la même nourriture qu'eux. Et il décide de retourner à la maison et de retourner voir son père. Et là c'est l'accueil de son père qui nous montre à quel point Dieu nous aime. C'est que son père va se réjouir de son retour, alors que son fils ne considère ne pas être digne d'être son fils. Son père, pardon, se réjouit de son retour. Il annonce que son fils était mort, mais qu'il est revenu à la vie. Il annonce qu'il était perdu, mais qu'il a été retrouvé. Et un grand festin va être organisé. Voilà l'amour de notre Père pour nous. Combien même nous prenons des mauvaises décisions, si on revient à lui, c'est comme ça qu'il nous accueille. On peut se relire ce verset dans Romains 8, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il n'y a pas un endroit où le Seigneur ne viendra pas vous chercher, il n'y a rien qu'il n'a pas déjà vaincu pour vous. Quatrième point, donc le Seigneur nous connaissait avant notre naissance, le Seigneur nous a fait, le Seigneur nous aime et notre Dieu nous instruit. Et ça, on a quelques versets qui en parlent. Par exemple, celui qui va être affiché dans le psaume 32, 28. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Et on a d'autres versets aussi dans le psaume 71 qui dit, ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. Et enfin, le psaume 119, je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Notre Père céleste a aussi ce rôle de nous enseigner. Alors pareil, je prends des exemples avec mes enfants, mais comprenez que je ne parle pas de moi, je parle de ce que Dieu fait au travers de moi. C'est un peu différent. Un jour, avec la famille, on va chez des amis et on découvre une maison en Bourgogne, une vieille maison un peu ancienne, qui fait un petit peu peur aux enfants d'ailleurs. Et durant la nuit, un gros tonnerre éclate. Et suffisamment fort pour que ça réveille les enfants. Et en plein milieu de la nuit, Raphaël, vraiment terrorisé, je pense qu'il découvrait pour la première fois la tempête, le tonnerre. En tout cas, c'était vraiment, vraiment fort, il faut le reconnaître. Et je suis sorti du lit aussi et je lui ai dit, écoute, Raph, ça, t'as pas à avoir peur. Il n'y a rien de compliqué, ça s'appelle le tonnerre. C'est quand il fait chaud au sol et froid en altitude. C'est de la météorologie, voilà, grosso modo. Donc, si ça te fait peur, on va aller démystifier tout ça. Allez, mets une veste et on est allé dehors. On est allé regarder le tonnerre en pleine nuit. Et le temps qu'il fallait pour qu'ils se disent, ok, ça paraissait effrayant, mais ça n'allait pas. Et je vais m'habituer un peu à ces bruits. Et donc, je l'ai accompagné. Je pense avoir eu ce rôle pour lui montrer que sa peur, à ce moment-là, elle n'était pas légitime. Et il pouvait, en tout cas, il n'y avait pas de quoi avoir peur, quoi. Et je pense que le Seigneur, notre Père, il fonctionne aussi comme ça avec nous. Il veut nous enseigner, à condition que nous soyons enseignables. Parce que la manière que Dieu nous enseigne, ce n'est pas souvent ce dont on s'attend. Dans les toilettes de chez mes parents, il y a un poème qui est inscrit et qui est inspiré de la Bible et qui dit « J'ai demandé à Dieu de la force et il m'a donné des difficultés à traverser. » Et en fait, Dieu il fonctionne avec cette gymnastique un petit peu. J'ai demandé à Dieu de la sagesse et Dieu m'a donné des problèmes à résoudre. J'ai demandé du courage à Dieu et il m'a mis au milieu des dangers à surmonter. J'ai demandé de l'amour à Dieu et il m'a positionné auprès des personnes en difficulté. Avec Dieu, on apprend dans la pratique, c'est un peu l'école de la vie. Mais il cherche à nous instruire chaque jour. Il y a quelques années, il m'a instruit quelque chose, moi, sur le repos. Alors, il faut que je vous explique aussi un petit peu. À la naissance de Michaela, j'ai cumulé beaucoup de choses dans ma vie, suffisamment pour ne plus me reposer. C'est-à-dire que j'avais un métier de commercial très prenant à l'époque, qui me demandait de faire beaucoup d'heures, mais en même temps, Sarah, qui avait repris le travail également, il a fallu qu'on se partage la garde des enfants. Mais alors, quand je vous dis partager la garde, vous comprenez, hein. Quelqu'un emmène le matin, l'autre va chercher le soir, et le soir, on est tous ensemble, hein. Mais il fallait que j'organise ma journée pour aller chercher les enfants. Et en attendant Sarah, il fallait gérer les enfants. Et à côté de ça, on avait une vie aussi active parce qu'on espérait pouvoir continuer à recevoir des gens, continuer à aller chez les gens. Et on avait une vie aussi d'église assez active. Et on était aussi assez investis. Et jusqu'au point où mon corps a lâché. Et j'ai fait, je ne sais pas si vous connaissez, j'ai fait un zona. Un zona qui est apparu de nulle part, parce que mon corps était stressé, fatigué, usé, et j'en prenais pas soin. Et Dieu m'a parlé, je ne sais plus si je prenais l'avion ou si j'ai eu cette pensée comme ça, parce que ça fait quelques années, mais vous voyez, quand on est dans un avion et qu'il y a des turbulences, ou en tout cas que ça ne se passe pas bien, les masques, je ne sais pas si c'est des masques à gaz, non, c'est des masques à oxygène. Merci de suivre. Des masques à oxygène. Il tombe, et ce que disent les petits fascicules, c'est, en tant qu'adulte, mettez d'abord vous le vôtre en premier, et ensuite mettez ceux des enfants ensuite. Autrement dit, j'ai le sentiment que Dieu me parle en me disant, tu veux une vie, et tu veux prendre soin des autres, mais ça ne marchera que si tu prends soin de toi en premier. Et je l'ai pris comme une vraie leçon, et du coup j'ai médité tout ce mois-ci sur le repos, sur le Shabbat, etc. Et le Seigneur m'a instruit. Donc un exemple pour vous dire que le Seigneur cherche à nous instruire chaque jour On n'est pas trop vieux pour ça. Et donc je peux même vous poser cette question, quelle est la dernière chose que Dieu vous a instruit? Posez-vous la question à vous-même, est-ce que ça date d'une semaine? Est-ce que ça date d'il y a 2 mois? Si ça date d'il y a 10 ans, ça fait peut-être longtemps maintenant. Il serait temps d'une nouvelle leçon là, pour retourner à l'école. Qu'est-ce que Dieu vous a enseigné récemment? Le cinquième point, Dieu a pris notre place. Raphaël, je vous parle beaucoup de Raphaël, hein, désolé. Raphaël, récemment, il y a une de ses cousines qui a fermé une porte, il a laissé sa main dedans. Oi, oi, oi. On a entendu hurler dans l'appartement et on a découvert que Raphaël, qui était inconsolable sur le moment, en fait, s'est fait écraser le doigt, à en perdre l'ongle, hein, donc quelque chose de vraiment douloureux. Et je ressentais sa douleur et je me disais, mais si seulement on pouvait échanger, je le ferais, mais sans hésitation, si je pouvais moi porter ta douleur, je le ferais. Encore une fois, il y a quelques années, toujours Raphaël, on a découvert que c'est une maladie que je ne connaissais pas. Il a eu le rhume des hanches. Très curieux. Ça arrive souvent chez le petit garçon de 3-4 ans. Alors, m'expliquez pas, enfin, me demandez pas d'explication, je ne suis pas médecin, mais en tout cas, les symptômes, c'est que du jour au lendemain, il a du mal à marcher, et le deuxième jour, il ne marche plus du tout. Pour autant, aucune douleur apparente. Moi, je pensais qu'il se moquait de moi, d'ailleurs. J'ai dit, mais Raphaël, pourquoi tu as des jambes en mousse là? Mets-toi debout. Et en fait, on le mettait debout, et comme si ses jambes étaient en mousse. Et pourtant, si j'appuyais partout, aucune douleur nulle part. On est allé aux urgences, on est resté longtemps parce qu'ils ont essayé. D'abord, ils ont fait des IRM. On s'imagine toujours un peu le pire et on élimine les choses les pires. Et puis, au final, on arrive à ce qui n'était pas très grave. C'était donc un rhume du genou, aucun antibiotique, rien de la hanche, pardon, aucun antibiotique, rien de spécial. Il fallait juste patienter. Et une semaine après, il était à nouveau sur ses deux jambes et à courir le 100 mètres sans aucun souci. Mais bon, en tout cas, quand on était à l'hôpital, il y a eu ce moment où il a fallu faire un IRM et que Raphaël se tienne tranquille dans un espèce de petit lit bien sanglé et qu'il aille sous un tunnel qui fait beaucoup de bruit avec des lumières. Enfin, le truc effrayant pour un garçon de son âge. Et il hurlait de peur jusqu'au point où je comprenais que les infirmières en avaient un peu assez. C'est vrai que vous êtes là le matin quand vous entendez crier derrière, c'est jamais très agréable. Et là, il faut imaginer que c'était fois 1000, donc il avait vraiment peur. Et les infirmières, peut-être un peu à bout, l'une s'est permise de dire: Raphaël, Raphaël, arrête de crier parce que si tu cries, ton père, il s'en va. Et j'ai dit: là, attendez, excusez-moi, hop, 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 hop. Raphaël, alors, ce que tu viens d'entendre, c'est totalement faux. Tu peux crier, moi, je ne m'en vais pas. Je suis là, je reste avec toi. Et elle était embêtée, l'infirmière, et on en a reparlé après. Je lui ai dit: non, mais je ne vous en veux pas, je comprends que vous soyez. Enfin, c'est compliqué de. Mais là, ce que vous avez dit, c'est. Non, non. Il fallait que je rétablisse la vérité. Et bien, notre Dieu, notre Père à tous, il a pris aussi notre place au travers de son Fils unique. Et ça, on le lit dans Jean 3, 16, qu'on connaît tous par cœur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a pris notre place, on le lit aussi dans Ésaïe 53, pardon, 4 et 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Notre Dieu, notre Père, il a pris notre place. C'est lui qui a apporté nos souffrances, nos douleurs, comme un vrai papa. Et en dernier point, notre Dieu nous attend à la ligne d'arrivée. Il faut que je vous repartage encore un petit témoignage. J'ai couru le marathon il y a quelques années, le marathon de Paris. En 2013, je crois. Et je l'ai couru avec un copain chrétien, avec qui à l'époque on l'a préparé pour une œuvre, pour une association. Donc, vous savez, on a récolté des fonds et on a couru pour l'association Charity Water, qui creuse des puits un peu partout dans le monde où il n'y a pas d'eau potable. Et lui et moi, tous les deux chrétiens, on avait cette approche spirituelle du marathon en se disant, on le fait avec Dieu, on le fait pour Dieu. Et on s'attend à voir Dieu durant cette préparation et durant cette course. Et effectivement, à la course, on avait le sentiment que le Seigneur était avec nous. Je me souviens le matin, juste avant de partir courir, on baisse la tête tous les deux et on prie pour remettre notre course. Et au moment où on dit Amen, vraiment à cette seconde-là, le gros nuage qui était au-dessus de nous s'en va et les rayons de soleil viennent caresser nos visages et on se dit, ah, ça y est. Ça démarre, il est avec nous dès le départ, là, on va pouvoir commencer. Et mon père, terrestre, hein, m'avait dit qu'il viendrait nous voir durant la course et qu'il ferait en sorte de se mettre à plusieurs endroits pour vraiment essayer de nous voir parce qu'il était assez fier qu'on fasse ça. Et quoi qu'il arrive, il serait présent. Et donc moi, j'ai démarré ma course. Et j'avais qu'une envie, c'était de voir mon père sur le côté, même si ça avait été au début, au milieu, enfin, je voulais cet échange de regard. Et le problème, c'est que le marathon, je ne sais pas si vous êtes allé assister une fois, mais je ne sais pas combien il y a de milliers de personnes, c'est très dur de se retrouver, c'est très très dur. Maintenant, il y a des applications, si on paye un peu plus cher, pour savoir où on est, où le coureur est exactement, mais bon, à l'époque, je n'avais pas payé. Enfin bref. Et donc, je cours cette course, convaincu que mon père est quelque part, convaincu que lui. À un moment donné, peut-être lui m'a vu, mais moi je ne l'ai pas vu parce que ça allait trop vite. Et donc tout du long, à m'efforcer à ne pas lâcher prise, à ne pas abandonner parce que peut-être qu'il m'a vu, peut-être qu'il lui il est en train de me voir, donc il faut que je tienne bon. Mais bon, moi je n'arrive pas à le voir pour autant. La course a été très dure, on a couru en plus de 4 heures. Il y a le fameux mur des 30 km pour les connaisseurs. Le mur des 30 km, c'est que c'est assez fréquent chez les coureurs. On court les 30 premiers kilomètres, a priori sans grosse difficulté. Le mur des 30 km, c'est là où tout ton corps te dit, mais qu'est-ce que tu es en train de me faire subir? Ça n'a aucun sens. Tu veux me tuer ou quoi? Et là, tout le corps, ça devient très mental. Hein, tout le corps te dit d'arrêter. Et puis, quand on passe le mur des 30, la machine se remet un peu en route et la fin se passe un peu mieux. Mais tout ça a été éprouvant. Et à la fin, sur la dernière ligne droite, qui je vois? Mon père. Dernière ligne droite, le sourire, les yeux. La joie de me croiser, etc. Et la joie de le voir. Et je le vois sur cette dernière ligne droite et je me dis, ah, mais c'est tellement chouette. Et puis, je passe la ligne d'arrivée. Et à la ligne d'arrivée, il était là pour m'accueillir, moi et mon pote. Il avait la voiture. Et il a dit, bon, allez, c'est bon, je vous ramène à la maison. Tout ça paraissait pas grand-chose. Mais quand j'y ai repensé le lendemain, j'ai dit, Seigneur, c'est ça. Je cours ma course, je te vois pas toujours. Mais un jour, je te verrai. Un jour, nous le verrons. Et il me dira, bienvenue à la maison, je te ramène à la maison, là où est ta place. De Timothée au verset 4, non pardon, de Timothée chapitre 4 verset 6, car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. J'ai achevé cette course. Notre Père, c'est celui qui nous attend aussi, qui nous observe tout au long de notre vie, mais qui nous attend aussi sur la ligne d'arrivée. Donc on reprend les points. Notre Dieu nous connaissait avant notre naissance. Notre Dieu nous a fait, sans aucun doute. Donc nous ne sommes pas une erreur. Notre Dieu nous aime d'un amour inconditionnel, infini. Notre Dieu nous instruit. C'est donc un enseignant à nous d'être enseignables. Quelle est la dernière chose que Dieu vous a apprise? Notre Dieu a pris notre place et notre Dieu nous attend à la ligne d'arrivée. Ce matin, je me suis réveillé. Mon fils avait un petit cadeau pour moi. Alors pour ceux qui sont sur Zoom, c'est un petit cœur au bout d'un petit bâtonnet. Et alors quand on l'ouvre, c'est une fleur avec écrit Bonne fête, papa. Mais voilà le cadeau de mon fils ce matin qui me donne un petit cœur. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Moi, je vous propose que notre père à tous, eh ben, on lui offre peut-être pour la première fois, si c'est pour certains d'entre nous, ou à nouveau encore, si ça a déjà été fait. Mais donnons notre cœur au Seigneur ce matin réalisons qu'il est le Père qui nous connaissait, le Père qui nous a donné la vie, le Père qui nous aime, le Père qui nous instruit, le Père qui a pris notre place et le Père qui nous attend à la ligne d'arrivée. Dieu, c'est Dieu le Père, c'est notre Père. Amen.